En air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Une parole éclectique, locale, thématique, sociétale, environnementale. Lumière à l'échelle locale de l'actualité nationale, internationale.
Bonsoir, bienvenue sur Principe Actif, bienvenue dans notre émission Un air de vie, l'émission sur l'environnement et les initiatives locales. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Kevin.
Salut Jérôme.
Le thème d'aujourd'hui, on l'a baptisé...
Retiens la nuit.
Retiens la nuit. Nous avons deux invités pour nous parler de tout ce qui est lumineux dans les villes, à commencer par Christophe Quettel.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Philippe Girard, qu'on avait déjà eu l'occasion d'accueillir.
Un comeback.
Un comeback pour un autre sujet.
À l'occasion de l'émission des Zozos.
Donc,
des zozos.
Mais moi, je suis l'invité secondaire, ce Christophe.
C'est le spécialiste. Ah,
nous, il n'y a pas de classement.
Oui, voilà, il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas d'ordre. T'inquiète.
Très bien. On commence par l'actualité, comme d'habitude. Avant de parler de notre thème, qui, vous l'avez compris, sera consacré à tout ce qui est lumineux dans la ville et qui peut nous déranger. Fred, un premier point d'actualité ?
Moi, je vais encore commencer par le nucléaire.
Encore ?
Ah non, mais bon, j'ai appris qu'il y avait encore une explosion à l'EPR de Flamanville. Alors rassurez-vous, c'est une explosion du budget. Mais il est passé, enfin, depuis le début du projet, il est passé de 3,3 à 8,5 milliards d'euros. Et cette augmentation de budget est accompagnée par des problèmes récurrents, des problèmes de structure du béton, des problèmes de conditions de travail. Et le dernier problème, c'est que EDF est amené à mettre en conformité une machine centrale du chantier qui est composée d'un pont polaire et de chariots. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un pont polaire. Tout ce que je sais, c'est que c'est le support qui est censé transporter les barres d'uranium.
D'accord.
J'ai oublié le mot, mais enfin bon. EDF, contrairement à ce qui a été dit, déclare qu'on continue de travailler, que rien ne change, que tout sera remis aux normes. Vous inquiétez pas.
On ne peut pas dire que ce soit une bonne com pour la vente de PR dans le monde, puisqu'à chaque fois, on triple les budgets dans notre propre pays, on n'arrive pas à les monter.
Alors, non seulement le budget triple, et puis en plus, il y a quand même pas mal de problèmes de fabrication. Donc oui, en effet, je crois que c'était Jean-Marc Ayrault qui était en Chine il y a quelques temps pour essayer de vendre un EPR. C'est vrai que c'est pas des très bons arguments de vente, mais bon... Sachant que la France est quasiment seule.
Comme quoi, on aurait dû continuer à faire plutôt des essais nucléaires dans le Pacifique.
Incroyable. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu aussi Montebourg parler du nucléaire et là, il était beaucoup plus catégorique et clair dans ses propos en disant que non, on n'abandonnera jamais le nucléaire. Le nucléaire, c'est l'avenir. Et ça, c'était vraiment très clair. Alors qu'au début, quand on commençait à parler de la réduction, on en avait parlé. Oui. Montebourg, mais il était un petit peu plus confus dans ses propos, oui, plus évasif et voilà. Il laissait plus d'espoir, peut-être. Je pense.
Qui est très tributaire d'Areva, c'est Areva ou la Cogema, je ne sais plus.
C'est Areva maintenant.
Oui, Areva, donc il y a une grosse. Donc en tant qu'élu local, M. Montebourg est obligé de défendre des employés.
On avait dit qu'on arrêtait d'en faire notre bouc émissaire. Alors moi j'ai un autre point d'actualité, vous avez tous constaté qu'il a fait beau, le temps était sec, etc. Il y a un superbe anticyclone gonflé au nucléaire, non pas au nucléaire, mais naturellement. Et donc de la pollution de l'air, beaucoup de pollution de l'air, surtout plein de petites particules à Paris qui embêtent tout le monde. Ce qui fait qu'on s'est réinterrogé sur les mesures qui pourraient être prises. Et apparemment, ce qu'on appelle la circulation alternée pourrait revenir sur le devant de la scène. Alors, c'est quoi la circulation alternée ?
Alors là, moi,
je roule d'un côté à droite et après je change le côté. Non, c'est pas ça. C'est en fonction de l'immatriculation du véhicule. Eh bien, effectivement, un jour, c'est ceux qui finissent par la panne d'immatriculation impaire. Donc, effectivement, c'est une mesure qui est à nouveau étudiée puisqu'il semblerait qu'elle soit efficace contre ces petites particules qui polluent l'air.
Ça permettrait de diviser par deux, a priori, la circulation automobile, ce qui serait
Parce que tu penses qu'il y a moitié paire, moitié.
Il me semble aussi qu'ils ont parlé de réduire la vitesse sur le périphérique à 70 km/h.
Hein. Ouais, c'est possible.
Ils avaient l'air de vouloir lacter ça d'ailleurs.
Ouais, bah. Christophe, un point d'actualité ?
Alors écoute, non. Là, si, il y a une nouvelle réserve de ciel noir qui. Ciel étoilé qui a été labellisé officiellement pour la première fois en Europe, dans le sud-ouest de la France, dans le sud-est, pardon.
C'est tout récent, hein, ça date d'hier, ça.
Ouais, tout à fait, ouais. En fait, on n'est pas les premiers dans ce domaine-là, puisqu'on a un peu copié sur ce qui se faisait aux États-Unis et au Canada, mais c'est bien que ça se mette en place en Europe.
Alors, c'est où ?
Alors, en fait, c'est autour du Pic du Midi. À l'origine, c'est les chercheurs qui travaillent là-bas qui ont lancé un petit peu ce.
On pourrait pas faire une spéciale à un art de vie là-bas ?
Ah, ça c'est un bon plan.
Je vais être invité.
D'accord. Philippe, un petit point d'actualité.
Oui, alors j'ai une nouvelle un peu triste. On avait pourtant une bonne nouvelle le 9 décembre, c'est pas vieux, hein, c'est notre ministre de l'Agriculture, Monsieur Le Foll, qui nous avait annoncé une baisse de l'utilisation des pesticides en France. Pour la première fois, les pesticides baissent. Bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Bah ouais, oui, sauf que
ces chiffres étaient bidons. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient basés sur des chiffres qui étaient incomplets. Et en réalité, bah, comme d'habitude, il s'agirait d'une augmentation. En 2012, les pesticides auraient encore augmenté. Et on reste parmi les meilleurs, parmi les champions du monde dans l'utilisation.
Tu veux dire que Monsieur Le Foll s'est fait berner? On lui a donné des fausses indications.
Ah, les chiffres sont compliqués. Mais bon, je pense qu'ils doivent quand même être un petit peu au courant et qu'il y a un petit peu trop de com' et un petit peu de malhonnêteté de la part de ce...
Aïe, aïe, aïe.
Alors, on reste dans les pesticides et les phytosanitaires, puisque c'est notamment un des objets de la loi de finances qui a été adoptée par le Parlement dernièrement, donc loi de finances pour 2014. Il y a un certain nombre de points qui concernent l'environnement, donc notamment la redevance pour les contrôles phytosanitaires. Et effectivement, le mode de calcul de cette redevance va être lié donc à l'exportation dans le domaine phytosanitaire et a été modifié. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Philippe, une réaction ?
J'ai oublié de dire que ceux qui avaient mis en évidence cette arnaque finalement sur la com, c'est l'association Génération Future qui fait vraiment un boulot très utile sur les pesticides. Hein. Voilà.
Fred, un autre point d'actualité ?
Oui, moi je voulais juste revenir sur un point que vous avez sans doute croisé, sur le fameux débat sur le chalutage profond ce projet d'interdiction qui est passé devant le Parlement européen et qui a été rejeté. Donc le chalutage profond est toujours autorisé, sauf que suite à un recompte, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés dans le vote et qu'en fin de compte, il aurait dû être interdit. Sauf qu'une fois que c'est voté, on ne peut pas changer.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ah, c'est même un problème
démocratique.
Et on ne
peut pas revoter, mais c'est n'importe quoi. Voilà.
Les lobbies arrivent même à modifier et à trafiquer les calculettes au Parlement européen, c'est dingue.
Voilà. Ça veut dire en fait que cette histoire de chalutage profond, en fait, c'est considéré comme c'est pas une pêche durable.
Alors, donc le problème du chalutage profond, c'est que c'est un chalut qui va racler le fond dans des grandes profondeurs, donc qui va abîmer une grosse partie de la flore du fond. Et en plus de ça, c'est un mode de pêche qui pêche beaucoup, beaucoup d'espèces de poissons. Donc il y a beaucoup de poissons qui sont finalement rejetés et.
On utilise 3%, je crois.
Voilà,
en fait.
Donc,
mais là, récemment, il y a eu un classement justement des enseignes qui avaient plutôt une mainmise sur la pêche, et on s'est rendu compte que finalement Intermarché qui vante énormément, donc en fait
c'est chalutier,
sa pêche en fait, pour montrer son circuit de son bon entre guillemets son bon circuit, finalement est très mal classé.
C'est parce qu'ils utilisent principalement du chalutage profond, donc ça pose un problème
finalement. C'était bien de la pub, quoi.
En fait, le problème de cette activité là aussi, c'est que c'est subventionné énormément. Et donc, en fait, c'est les impôts qui permettent à des entreprises donc privées de faire fonctionner des bateaux qui, en plus, vont aller détruire l'environnement. Donc, en fait, là, il y a quelque chose d'illogique là-dedans.
Pour collecter. Mais une autre nouvelle qui se voudrait rassurante, c'est la création en 2015 de l'Agence de la biodiversité. Et alors, cette création a rencontré quelques opposants, notamment du côté du patronat et de la FNSEA, qui a peur de voir arriver une association avec la main mise. Alors l'objectif est d'avoir une agence qui regroupera l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'établissement public des parcs nationaux, l'Agence des aires maritimes protégées, le groupement d'intérêt public Atelier technique des espaces naturels. Et cette future agence aura pour mission la sensibilisation, l'expertise et le soutien pour des projets maintenir la biodiversité.
Très bien.
Un peu au format de l'ADEME. Donc on peut espérer.
Très bien, je propose qu'on marque une première pause musicale et on se retrouve dans un instant pour parler de notre thème d'aujourd'hui, que tu as baptisé
« Retiens la nuit ».
Yeah. Okay, that's the one.
Vous écoutez Principe Actif, un air de vie. C'était quoi, Kevin, ça?
Bah écoute, c'était Jamiroquai avec Rock Dust Lifestyle.
Oh, super. Ok. Donc aujourd'hui, notre émission baptisée Retiens la nuit, nous recevons Christophe Quettel et Philippe Girard. Christophe Quettel, délégué à Lampsen. C'est quoi Lampsen?
En fait, c'est une association nationale qui s'intéresse en fait à l'éclairage public ou privé, mais... et à son impact de façon plus générale sur la biodiversité, la santé, les finances publiques. Voilà.
Et on reçoit donc aussi Philippe Girard, mais cette fois-ci en tant qu'élu d'une commune.
Oui, je suis conseiller municipal au Val-David et on a 5 étoiles au Val-David.
Bien. 5 étoiles,
mais c'est incroyable. On va dire ce que c'est après.
Ah,
alors Fred, comment est-ce qu'on retient la
nuit ? Suspense. Ben nous, justement, on s'est un petit peu posé la question à l'approche des fêtes de Noël. On voit de l'éclairage qui arrive partout, dans les rues, dans les cours, dans les chemins. Et toute cette lumière, tout cet éclairage, on en avait parlé dans la dernière émission par rapport au passage d'une comète qu'on voyait de moins en moins. Et cette lumière qui, finalement, nous accompagne de plus en plus durablement. Il faut savoir qu'il y a encore 20 ans, on n'éclairait que 2400 heures par an. Maintenant, on éclaire 4000 heures par an, c'est-à-dire qu'on éclaire quasiment 50% du temps. L'éclairage public est allumé. Et cet éclairage commence à poser des questions au niveau notamment de la flore et de la faune.
Alors, quel problème, justement, vis-à-vis de la faune et de la flore, messieurs ? Qui prend la parole, Christophe ?
Allez, oui, en fait, tout ce qui vit sur Terre a besoin de, et s'est développé au cours des milliers d'années avec l'alternance jour-nuit. Ce qui se passe depuis 60-70 ans, c'est qu'en fait, on a un peu cassé cette alternance. Donc forcément, ça a des répercussions sur, sur tout le vivant, mais que ça soit la faune, la flore, et on en fait
les
partie,
humains aussi.
Les humains aussi, puisque la biodiversité, voilà, c'est pas que les petites bêtes. Malheureusement, nous aussi. Donc là, bah, petit à petit, en fait, on réfléchit à l'impact réel de cette utilisation un peu irraisonnée d'éclairage. Et puis, on essaie d'amener les gens à avoir une démarche réfléchie et à utiliser ça de façon la plus juste possible pour garder tout le confort qu'apporte cet éclairage et la modernité. Et en même temps, ne pas casser complètement cette alternance et même la recréer aux endroits où elle a complètement disparu.
Philippe, vis-à-vis de l'impact sur la faune et la flore?
Ah, disons que... En écologie, il y a des facteurs qui sont des facteurs de l'environnement et parmi les facteurs les plus importants, il y a la lumière. Et la lumière, elle a une caractéristique, c'est d'avoir une alternance de jour et de nuit. C'est ce qu'on appelle le rythme nyctéméral. Mais c'est pas un gros mot, hein.
Pas gros.
C'est l'alternance des. Bon, alors cette alternance des jours et des nuits, elle varie dans les saisons, elle varie selon les saisons. D'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes le 20 décembre, et que c'est pratiquement le jour où on a la nuit la plus grande, si j'ose dire.
Et après, on repasse dans le côté...
les jours vont réaugmenter.
Le côté obscur de la force.
Ça varie aussi en fonction de la géographie. Actuellement, au pôle Nord, c'est la nuit complète, mais cet été, on aura 24 heures de jour. Et puis par contre, au tropique, on a 12 jours de nuit et 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et les animaux et les végétaux, les écosystèmes se sont adaptés à cette caractéristique de la lumière.
Et justement, Philippe, tu n'aurais pas un exemple particulier d'une espèce à qui justement cette activité humaine avec cette influence de l'éclairage aurait profité à une espèce animale pour pouvoir chasser?
Chasser, servir de la lumière.
Vous voulez une anecdote?
Allez.
Cet été, j'ai visité le Mont Saint-Michel. Et donc, j'ai profité de la visite, j'ai regardé. Puis à un moment donné, je lève le nez et je vois sur la flèche. Alors ça, c'est une des plus belles émotions que j'ai eues dans la visite du Mont Saint-Michel, mais elle n'était pas prévue. Un faucon pèlerin qui est parti de la flèche et qui a profité de la lumière qui était là pour aller attraper un pigeon. Donc effectivement, il a profité de la lumière qui était présente et qui n'était pas au bon endroit, qui n'était pas normal pour pouvoir s'alimenter.
Alors, le faucon s'est adapté alors.
Non, tout ça pour dire en deux mots que une modification de l'environnement va entraîner des modifications des écosystèmes. Les écosystèmes réagissent à une modification des facteurs en s'adaptant. Et donc, ça fait des modifications. Certaines sont positives, mais d'autres sont négatives.
Mais de manière générale...
Et de toute façon, ça fait des changements.
De manière générale, les côtés positifs sur la faune et la flore sont plutôt peut-être des exceptions ou...
Bon, il y a quand même une catastrophe, par exemple, sur la population des insectes. Les insectes sont décimés, ils sont attrapés par la lumière et du coup ils se
surprédatés.
Ça c'est un truc qui me fait bon, c'est marrant parce que les insectes c'est vraiment peut-être un sujet qui touche très peu de gens et même on prend plaisir à les voir.
Sauf que l'écosystème dans les écosystèmes tout est lié et donc si vous supprimez les insectes, ben vous allez supprimer les oiseaux aussi et puis en fait nous on est aussi un petit peu au bout de la chaîne.
Exactement.
500 km d'autoroute, après le pare-brise, il est beau. Hein.
De moins en moins. Souvenez-vous, enfin, nous, on n'est pas tout jeunes. Quand on était, surtout moi, quand j'étais jeune, effectivement, quand on faisait 500 km, le pare-brise était complètement était à nettoyer. Ben, maintenant, quand je fais 500 km, il y a trois insectes.
Moi, j'avais vu, donc, par rapport à ce que tu me demandais, Kevin, j'avais l'exemple de deux grands ponts, notamment un pont dans les pays du Nord, où, en fin de compte, qui est très éclairé. Il est au-dessus de la mer, donc c'est très brumeux. Et en fin de compte, il y retrouve plein de cadavres d'oiseaux qui, finalement, dans leur déplacement, sont approchés par la lumière. Et comme, en fin de compte, il y a des câbles, ils vont se fracasser sur les câbles.
C'est une influence sur les migrations des oiseaux.
Enfin, sur la mort d'oiseaux. Alors, je ne sais pas si c'est
sur la migration. C'est lors de l'inauguration du pont qui relie la Suède au Danemark. Et quand ce pont a été inauguré, effectivement, il y a eu une catastrophe pour les oiseaux. Alors, de toute façon, si vous voulez une preuve tangible de l'impact que peut avoir la lumière artificielle sur les oiseaux, il suffit de vous rendre le matin au pied d'un phare. Et vous allez avoir, malheureusement, plein de cadavres d'oiseaux au pied du phare.
Alors, d'autres conséquences de cette luminosité artificielle accrue?
Alors, en fait, là, on parlait tout Christophe. À l'heure de migration, mais de façon plus générale, il y a énormément d'espèces, en fait, qui ont modifié leur migration. notamment en Europe, parce qu'en fait, il y a toute une ceinture au niveau de la Belgique et de la Hollande qui est suréclairée en permanence. Alors là, on est sur des cas assez catastrophiques, hein, en termes d'utilisation d'éclairage non maîtrisé. Et le problème, c'est que les espèces, en fait, modifient leur migration, mais pas seulement. Du coup, elles s'arrêtent sur des territoires qui ne sont plus adaptés à la reproduction, et du coup, elles s'autorégulent. Donc, on a des espèces, en fait, qui disparaissent complètement dans certains secteurs, et parfois même complètement, parce qu'elles se sont autorégulées à cause de la modification de leur migration. Et elle est, en fait, quand une route complètement éclairée forme une véritable barrière, en fait, pour les animaux.
Ok. En fait, l'espèce animale n'a pas le temps de s'adapter à ce changement, en fait, qui est trop brusque.
Non, et quand elle s'y adapte, en fait, si c'est dans le sens de la pauvreté en termes de nourriture, en termes de ressources, elle peut même disparaître, en fait. Elle va s'autoréguler, ce que nous, on ne sait pas faire.
Fred ?
Ben, juste en phénomène de barrière, moi j'avais vu ça, j'ai lu ça sur un article, sur un site, peut-être le vôtre, pour les poissons migrateurs, tous les systèmes de ponts qui sont maintenant éclairés à la fois au-dessus et en dessous, avec tout un système d'éclairage pour mettre en valeur les édifices, et en fin de compte, ça fait des espèces de murs de lumière dans l'eau, et ça bloque la remontée ou la descente des poissons, tous ces poissons migrateurs. On a souvent parlé des saumons, on avait fait des passages pour les saumons pour qu'ils puissent passer sur les barrages, et là, en fin de compte, au niveau de la Loire, ça se passe de manière pareille, ça fait des murs de lumière dans l'eau. Visiblement,
de toute façon, éclairer les sites naturels, enfin, bon, voilà, ça n'a pas une grande utilité en termes de confort pour les déplacements. Ça peut faire joli. Après, il faut effectivement y réfléchir à deux fois et faire des choses de la façon la plus juste possible. Je ne suis pas certain que ce soit absolument nécessaire d'éclairer le dessous d'une rivière dans une ville, y compris comme la nôtre, toute la nuit. Voilà. Bon, ça fait joli, mais il y a quand même peu de promeneurs pour profiter de la beauté de l'éclairage. Hein, l'éclairage a un côté aussi artistique qui est intéressant. Je ne suis pas certain que le fait de prolonger cet effet artistique toute la nuit, quand il n'y a plus personne, soit vraiment d'une grande utilité. C'est la même chose pour les monuments.
Exactement.
Alors revenons maintenant à l'humain. Il y a énormément de routes qui ont été pendant longtemps suréclairées. On pensait toujours aux autoroutes belges, évidemment. Est-ce que ça a vraiment un effet sur la sécurité de l'automobiliste ?
Alors en fait, c'est un effet inverse. Le hasard fait parfois bien les choses. Il a suffi qu'en France, on a eu, dans le nord de la France, en fait, on a construit et aménagé l'autoroute la plus moderne d'Europe. Et puis, des gens mal intentionnés se sont amusés à en fait prendre le câblage qui permettait l'alimentation de tout cet éclairage. Donc, l'installation s'est trouvée démantelée un temps. Et s'est posé la question de qui devait en fait payer la remise en route et qui ensuite allait reprendre la consommation à sa charge. Est-ce que ça allait être la région ? Est-ce que ça allait être l'État ? Enfin, bon, voilà. Donc, des gens intéressés par la question financière se sont penchés sur le problème. Une étude a été demandée par un sous-préfet. Il y a eu une très bonne idée. Et on s'est dit, faisons au moins des statistiques, profitons du fait que ce soit éteint, et puis voyons un peu ce que ça donne. Et on s'est aperçu qu'en fait, c'était moins dangereux quand c'était éteint que quand c'était allumé. Donc du coup, il a été décidé de ne pas dépenser de fortune pour remettre en état des installations qui, de toute façon, seraient très vite vandalisées et à nouveau hors d'état.
Ah, c'est économique.
En fait, voilà, c'est l'excès de confort fait un assaut. Enfin...
Oui, parce qu'en fait, on se sent en sécurité en voiture lorsque c'est éclairé. Du coup, on roule plus vite. Et on est de fait, sans le vouloir, moins vigilant, puisqu'on a l'impression en fait d'avoir les mêmes conditions de vigilance qu'en journée. Or, c'est pas le cas. Voilà. Un village qui reste éclairé la nuit, les gens le traversent à toute vitesse. Nous, on l'a testé dans mon village.
Bien sûr.
Et du jour où on a éteint, on s'est aperçu que les gens roulaient moins vite, donc moins de danger, moins de bruit. Voilà. Donc, tout était.
Est-ce que c'est un message pour la future déviation qui passera autour des Vreux?
Ça pourrait, mais je pense pas qu'un éclairage public soit prévu tout le long. On essaie maintenant de limiter les, mais y compris sur les ronds-points. Il y a quasiment plus maintenant de conseils généraux en France qui financent l'éclairage public des ronds-points. On met des systèmes passifs en fait qui sont très efficaces. Voilà, ce qui se posait comme problème sur ces éclairages de ronds-points, c'est qu'en fait c'est toujours très loin des villes et villages et des installations. Donc ça coûte très cher en termes de réseau pour amener l'éclairage à ces endroits-là. Et ensuite, à la charge de qui ? Est-ce que c'est la commune sur laquelle on a fait le piquage qui doit payer, ou est-ce que c'est la collectivité, et comment ? Voilà, et qui fait la maintenance ? Enfin voilà, donc ça coûte très très cher, et petit à petit, en fait, le problème financier va finir par régler le problème environnemental, qu'on le veuille ou non.
Alors, est-ce qu'il y a aussi un effet de l'éclairage sur la délinquance ?
Alors pareil, beaucoup d'idées fausses sur le sujet. On s'est aperçu que il y a un type de délinquance, de toute façon, qui est complètement insensible au fait qu'il y ait de l'éclairage ou qu'il n'y en ait pas. Hein. Par contre, toute la petite délinquance, en tout cas le trouble à l'ordre public de façon plus générale, est grandement amélioré quand il n'y a pas de lumière. Voilà, c'est toujours plus compliqué, les rassemblements sont limités, et voilà, bon, les idées de mauvaises actions, en tout cas,
améliorer,
se trouvent limitées.
C'est-à-dire qu'il y a moins de délinquance quand il n'y a pas de lumière, c'est ça?
Alors, en fait, moins de gêne de l'ordre public, moins de troubles, en tout cas, voilà, dans les communes.
Il semblerait, de toute façon, quand il y a cambriolage, ça se passe en journée, puisque, ouais, de toute façon, les gens sont chez eux la nuit.
Voilà, et plus de 92%, de toute façon, des méfaits, toutes catégories confondues, ont lieu de jour ou en milieu éclairé. Voilà, ce qui est...
Je pense qu'on a bien brossé tout ce qui pouvait se passer avec les MSD. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale. À tout à l'heure.
Keeping us
Vous écoutez Principe Actif, un art de vie consacré aujourd'hui à la surlumière, le suréclairage en domaine public. Alors on l'a vu juste avant la pause musicale, on a vu les conséquences, elles sont importantes, de ce suréclairage artificiel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Visiblement, il y a des villages qui prennent des initiatives, Christophe, pour recréer des espaces sans lumière.
Alors, tout à fait, sur l'agglo d'Évreux par exemple, mis à part Évreux, hein, qui est un petit peu le mauvais élève, mais bon, qui est de la grande ville, donc c'est toujours un peu plus compliqué à gérer. Il y a eu des essais de fait, des expérimentations qui seront certainement reconduites, je pense, par la suite. Pour ce qui est des petites communes, les 36 autres hein, dans l'agglo, on en a 4 qui n'éteignent pas leur éclairage et tous les autres éteignent l'éclairage. Voilà. Y en a plus de la moitié qui sont des villages étoilés, comme celui de notre ami Val David, où ils ont 5 étoiles.
Donc, on reviendra sur cette, sur ce label.
Voilà. Mais dans l'agglo, par exemple, là, sur Évreux, on est une des agglos de France où il y a le plus de communes, en fait, qui pratiquent l'extinction et qui sont signataires d'une charte de protection de l'environnement nocturne particulière. Et puis, pour certaines qui ont pris l'option de le mettre ça en valeur et donc de concourir à un concours qui met en valeur.
Est-ce que cette extinction a été facilement acceptée par les élus? Est-ce que vraiment il y a un volontarisme?
Dans notre agglo, de plus en plus en fait. Hein, alors pour plein de raisons, hein, pour des raisons financières, alors, sur des budgets.
Lesquelles? Voilà.
Voilà. Et puis aussi, alors il y a les raisons financières. Bon, celles-ci, elles sont relativement faciles à comprendre. C'est à peu près 50% de l'énergie utilisée dans les communes, hein, en moyenne en France, c'est l'éclairage public, en fait. Voilà. Le problème, c'est que c'est le seul poste qui, depuis 3 ans, a pris 20% d'augmentation et qui va en prendre encore 30 d'ici 2016. Voilà. Du fait de la libéralisation du tarif de l'électricité au niveau européen.
Ça va traduire les prix.
Donc, voilà. En termes de fonctionnement, malheureusement, c'est le poste qui va le plus augmenter dans les années qui viennent et qui a déjà augmenté depuis 2 ans. Donc, en fait, on va avoir sur 6 ans pratiquement 50% d'augmentation. C'est le seul poste de fonctionnement dans nos communes qui a augmenté de cette façon. Donc, pour nos budgets, effectivement, ça devient quelque chose de sérieux. Donc, des tas de gens ont passé le pas et ont fini par essayer de gérer un petit peu plus justement leur éclairage, leur temps d'éclairage, avec des coupures en milieu de nuit ou avec des installations moins puissantes. Donc ça va faire du bien à l'environnement grâce au côté financier, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant il y a les plans climat également hein, qui sont mis en place un petit peu partout, qui sont obligatoires, et l'idée des 3-20 par exemple, hein, 20% d'économie d'énergie, etc., et 20% de gaz à effet de serre en moins, une commune qui couperait son éclairage public mais qui n'aurait pas de grands locaux publics comme des grandes salles polyvalentes, des grandes mairies, des écoles, etc., peut juste en coupant 5 heures ou 6 heures son éclairage dans la nuit baisser de 60% sa facture de... Alors, pas sa facture financière, mais son impact, en tout cas énergétique, et donc, de fait, son impact en termes de gaz à effet de serre rejeté, et donc, tombe automatiquement dans les 20% nécessaires pour rentrer dans le cadre du plan climat.
Fred ?
Oui, non, pour rebondir là-dessus, ça représente 7 milliards de kilowatts la consommation électrique des collectivités locales, donc là, on est en kilowatts, et sur ces 7 milliards, il y a 30 à 40% qui sont perdus, soit à cause d'une mauvaise qualité du matériel, soit à cause d'une surpuissance. Donc on se dit qu'il y a vraiment des choses à faire de manière assez simple, avec des problèmes qui sont très bien
justement
identifiés.
Concrètement, c'est quoi les choses à faire, donc les alternatives? Donc là, vous avez parlé justement d'optimiser en fait la gestion de la lumière, de ne pas la laisser allumer par exemple tout le temps, de faire de l'alternance, mais quelles sont les autres alternatives? Parce qu'on entend, on parle donc des ampoules LED, on en voit aussi des éclairages qui essayent d'arrêter d'éclairer le ciel et plutôt simplement le trottoir. Quelles sont les différentes alternatives proposées aujourd'hui? Voilà,
les solutions, elles existent. Les LED, c'est pas la solution miracle pour l'instant, parce qu'en fait, on sait pas les recycler, ça coûte très cher, il y a énormément de composantes blanches, et donc en réalité du bleu et du vert dans ces éclairages LED, et c'est très impactant sur la biodiversité, sur la santé. Voilà, donc clairement, c'est pas la solution.
Alors pourquoi ça a un impact?
Alors en fait, parce que tout le vivant est sensible à la lumière blanche. Puisque la lumière blanche, c'est en réalité la lumière du jour. Voilà. Donc plus on crée d'éclairage artificiel qui se rapproche de la lumière du jour là, plus on impacte en fait et plus on modifie ce qui avait été dit tout à l'heure pour la biodiversité.
Il y en a qui disent justement que ce serait la lumière rouge la mieux...
Non, en fait, le sodium, comme on le voit un petit peu partout, un petit peu jaunâtre, a l'avantage, c'est qu'en termes de spectre, c'est quasiment moins impactant. Ça a un autre avantage pour moi, c'est que c'est du matériel qu'on sait parfaitement gérer, en termes de recyclage notamment. Ça coûte pas très cher. Donc en termes d'argent public, c'est intéressant. Ça a plutôt un bon rendement, c'est simple à mettre en œuvre et on sait le recycler. Bon, vous allez me dire les LED aussi, puisqu'il suffit de les mettre dans des containers et les envoyer en Inde ou en Afrique.
Pas mal.
C'est alors, en Europe, on sait très bien faire ça dans les pays industrialisés. Voilà. Mais je pense que, bon, pour l'instant, c'est pas.
Donc, concrètement, finalement, l'innovation technologique que représentent les LED ne sont pas une réelle alternative aujourd'hui.
Non, dans certains domaines, comme l'éclairage, bon, même architectural, quand on souhaite en faire, mais également les éclairages intérieurs, enfin, ça permet énormément de choses. Les LED, c'est une technologie de pointe. Bon, pour l'éclairage public, c'est pas la solution miracle.
C'est pas ça qui va faire.
La solution, elle existe. On a l'avantage d'avoir des lampes qui ont un meilleur rendement aujourd'hui en sodium que ce qu'on avait il y a encore 10-15 ans. Tous les lampes à l'air fournies par les fournisseurs maintenant existent dans des versions parfaitement défilées, c'est-à-dire où les lampes sont complètement encastrées dedans. Donc l'éclairage va uniquement être dirigé par les miroirs qui sont dans les lampes à l'air et donc directement sur le sol ou sur les zones qu'on souhaite éclairer. Donc pas d'impact sur les façades des maisons, pas d'impact en tout cas très réduit pour la biodiversité alentour. Donc voilà, il existe du bon matériel. Voilà, il faut juste de faire le choix. Et l'avantage, c'est que comme ce matériel est très directif et très efficace, on peut donc baisser les puissances. Par exemple, dans ma commune, tout le nouveau matériel est à 70 watts pour remplacer du 100 ou du 125 auparavant. C'est-à-dire que même quand nos installations fonctionnent, on fait déjà 30% d'économie d'énergie, mais aussi de rejet de gaz à effet de serre. Voilà.
Concrètement, à Irville, au Val-David, qu'est-ce qui se fait ?
Alors, au Val-David, bah, tout simplement, on éteint la nuit.
Alors, de quelle heure à quelle heure ?
C'est-à-dire que notre éclairage commence en fonction de la luminosité. Donc, quand il commence à faire nuit, les lampadaires s'allument. À 22h30, bon, je trouve que c'est un petit peu tard, hein, ça pourrait être un peu plus tôt. Mais enfin, à 22h30, de toute façon, ça s'éteint. Ce qui fait que quand j'ai les invités plus tard, bah, je les raccompagne à leur voiture avec une lampe de poche, quoi. C'est sympa. Et puis le matin, la lumière se rallume automatiquement à 6h30. Et c'est pareil, elle s'éteint en fonction de la luminosité. Donc ça nous fait faire des économies extraordinaires, quoi.
Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui me disent « Ouais, j'ai pas envie de revivre autant des sauvages, tout ça. Moi, je veux ma lumière, sinon je me sens pas bien. » Mais vous leur dites quoi à ces gens ?
Moi, quand je me balade la nuit, je préfère avoir de la nuit, une vraie nuit.
Oui, vous, mais les personnes qui se sentent qu'est-ce que vous leur répondez ?
On en a pas au Val-David.
Il n'y en a pas au Val-David.
Non.
Ok.
De toute façon, ils dorment au Val-David. Ils dorment à ce temps-là.
Ok. Ok.
Alors en fait, bah, sur Irville, on a eu une démarche un peu différente. On pratique une extinction en cours de nuit. Hein, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a regardé un peu ce qui se fait sur la commune. Hein. Le flux, les gens, jusqu'à quelle heure on voyait des gens circuler dans le village, à quelle heure les gens commençaient à circuler le matin, etc. Les ramassages scolaires, ça a été un des points les plus importants pris en compte dans nos décisions. Donc nous, en fait, on éteint à 22h le soir, parce qu'en fait, à 21h, tout se termine, les centres commerciaux ferment, les équipes sont changées, voilà, les gens ont eu le temps de rentrer chez eux tranquillement, de s'installer. Donc ils n'ont plus vraiment besoin d'éclairage à l'extérieur. Et puis le matin, les premiers ramassages scolaires avaient lieu vers 7h, donc on rallume à 6h30, nous. Voilà. Ça permet aux enfants qui vont un petit peu plus tôt sur les lieux de ramassage pour papoter un peu avec les copains qui sont pas forcément dans les mêmes établissements, d'y aller en toute sécurité et puis dans le confort. Enfin, l'éclairage public, c'est quand même un confort indéniable, il faut le préserver, il faut le garder, ça, on va pas, il est hors de question de revenir en arrière. Maintenant, ça permet d'optimiser. Il n'y a pas de règles, hein, en termes d'extinction. Chaque commune a des flux différents, des activités différentes, une population différente, il faut donc l'adapter. Il n'y a pas de
finalement, ce que vous dites, ça paraît un peu comme du bon sens, tout simplement. Peut-être que simplement avant, on n'avait jamais mis la loupe sur ce problème-là, et d'un seul coup, on s'y met, et en faisant simplement des ajustements, on arrive déjà à un changement.
Ce n'est que du bon sens. Moi, je fais souvent le parallèle avec la gestion des ordures ménagères. En fait, tant qu'on ne s'est pas posé la question de l'impact que ça pouvait avoir, tout met dans une poubelle, où était le problème ? Enfin, vraiment. Aujourd'hui, on a expliqué aux gens quel était le problème, quel était l'impact de toute la gestion de ces ordures ménagères. Et aujourd'hui, les gens font du tri, et puis s'y font plutôt bien. Et petit à petit, tout ce qui se fait au niveau des agglomérations, au niveau des communes, ça se met en place. Il y a des réseaux qui se mettent en place, et puis ça va se faire tranquillement, tout seul. C'est un peu dur, évidemment, pour la génération qui a connu le début de ce phénomène-là, mais c'est la même chose pour l'éclairage public. C'est un peu dur au départ, et puis ça semblera naturel.
Mais c'est pas impossible, voilà.
Non, et puis c'est même, finalement, on s'apercevra que c'est même un gage de qualité de vie, donc il faudra aller dans ce sens-là, et tout le monde dira.
Je rappelle ce que tu disais précédemment, c'est que souvent les villages sont des lieux de passage, et laisser des lumières allumées toute la nuit, ça favorise un passage à vitesse rapide par les automobilistes qui s'y arrêtent pas. Donc voilà, c'est un effet dissuasif sur la vitesse d'éteindre, ouais, justement, cet éclairage.
Et derrière ce que tu disais, je pense aussi que c'est un peu vendu par les vendeurs d'électricité, cet aspect lumière égale progrès. Et ça a été pour pas mal de gens, le fait de voir arriver de la lumière partout, cet éclairage qui un peu ont dominé la nature, ont dominé la nuit. Mmh. Et c'est un discours qui plaisait beaucoup aux vendeurs d'électricité. C'est un discours qui a été beaucoup entendu. C'est vrai que pour ça, maintenant qu'on se dit, oh ben non, on va pas éteindre maintenant qu'on a gagné ça. Alors que finalement, il faut simplement avoir du bon sens et se poser la question. Oui, on peut éclairer, mais...
C'est vrai que ça nous paraît normal, mais finalement, c'est pas indispensable.
Voilà,
ouais. Non, et puis le progrès pendant longtemps, ça a été d'utiliser la technologie. Aujourd'hui, c'est de la maîtriser. Donc, en fait, ça va dans la juste marche des choses. En fait, aujourd'hui, on apprend à maîtriser notre éclairage. Voilà. Pendant très longtemps, être au top, c'était avoir de l'éclairage. Aujourd'hui, être au top, c'est savoir le gérer. Mais c'est valable pour tout.
Alors, revenons à l'AmpScène, justement. Que fait l'AmpScène vis-à-vis des communes? Est-ce qu'il y a justement tout un cycle de formation, de promotion sur ces pratiques?
Alors en fait, l'AmpScène, c'est un réseau national avec des correspondants, des délégués, enfin voilà, donc des gens qui sont à disposition aussi bien du particulier que des élus. Nous, on est là en fait pour concentrer l'information et les retours qu'on a sur les impacts que ça peut avoir. Et puis surtout, avoir un retour sur les solutions possibles et voilà, les choses qui peuvent être mises en œuvre et comment elles peuvent être mises en œuvre. Donc en fait, les délégués départementaux, les correspondants sont là pour informer hein, la population et les élus et les aider dans leurs projets, en fait, s'ils le demandent. Hein, parce que c'est une association où l'activité est complètement bénévole. Donc en fait, on est vraiment là au service des gens en fonction des demandes qui sont faites.
Alors moi, j'ai vraiment une mission par Monica, la maire du Val-David, qui m'a dit absolument de dire qu'elle était très très contente d'avoir comme ça des associations qui puissent lui permettre d'être à l'écoute, de donner des conseils aux communes. Et alors c'est vrai que nous, on a eu ce label là dont on va parler de 5 étoiles. Du coup, ça nous a sensibilisés et vous êtes présents auprès de nous pour nous aider, pour nous dire ce qu'on peut faire. Et ça, on apprécie énormément, quoi. Avoir des gens qui puissent nous conseiller, qui puissent nous dire dans quelle direction aller, c'est vraiment quelque chose de précieux.
Non, parce que je suppose que les communes doivent être démarchées par d'autres, par des vendeurs d'électricité aussi parfois, qui doivent inciter à l'installation.
Alors, je pense que c'est bien d'avoir un deuxième discours. Je peux peut-être parler un petit peu de la toute petite expérience du Val-David. Nous, on a eu notre premier label. En fait, on a profité de ce qui se passait de la politique précédente depuis très très longtemps. En fait, nous, on n'a jamais cédé aux sirènes, si je peux dire, et au dumping qui incitait les communes à éclairer.
À quoi ressemblaient ces sirènes?
Eh ben, ouais, tout simplement.
Des beaux costards.
Tout simplement, on nous proposait d'éclairer toute la nuit pour peu d'argent, quoi. Et donc, certaines communes ont cédé à ces sirènes. Et au Val-David, jamais. Peut-être qu'on avait une politique un peu tranquille, un peu pépère et un peu traditionnelle en se disant, bah non, nous, on pense qu'il faut pas éclairer la nuit, donc on va pas éclairer la nuit.
Voilà. Et comment ces sirènes ont réagi? Elles ont fait demi-tour?
Ah ben oui.
Elles sont parties au large.
Oui. Mmh. Mais on l'a fait comme on aurait fait de la prose sans y penser, quoi. Et par contre, maintenant qu'on est sensibilisé grâce à ce label et grâce au travail avec l'AmpScène, eh ben, on fait attention. Par exemple, maintenant, on a construit un nouveau bâtiment communal, donc on a fait attention à l'éclairer proprement. Le siège nous a permis de transformer un peu l'éclairage autour de ce nouveau bâtiment. Eh ben, on a décidé de changer nos lampadaires, qui étaient des lampadaires complètement idiots, autour de l'ancienne salle des fêtes. On avait des lampadaires qui éclairaient vers le haut, donc on en a profité pour les changer aussi et pour avoir des lampadaires modernes qui étaient plus performants. Voilà.
Alors parlez-nous justement de ce label. C'est quoi les villes étoilées?
Alors en fait, l'idée de ce label, en fait, c'est tout simple, c'est qu'en fait, en matière environnementale, il y a un truc qui, moi, m'a toujours choqué, c'est qu'en fait, on est constamment en train de parler du pollueur, en gros, mais on ne parle jamais des gens qui ont une vraie réflexion et des vraies actions qui vont dans le bon sens. En fait, on est constamment en train de stigmatiser et jamais on va dans le bon sens. Voilà, ce label, c'était une façon qu'on a trouvé à l'AmpScène pour essayer de mettre en valeur les actions collectives valables qui existaient en France. En fait, voilà, plutôt que de montrer ceux qui faisaient n'importe quoi en termes de gestion de leur éclairage, on essaie plutôt de mettre en valeur les gens qui ont déjà eu des réflexions sur le sujet, installent du bon matériel, baissent leur puissance, coupent la nuit quand c'est possible. Voilà. Donc, on a créé un label, en fait, qui est un concours, hein, qui est décerné après un concours. Et l'idée, c'est un système de bonus-malus. Donc, en fait, quand on fait de bonnes choses, on récupère des points, les mauvaises nous en retirent, et puis à la fin, il y a un compte.
qui restent. Et en fonction du compte de points qui reste à la fin du concours, on peut obtenir un label qui va de 1 à 5 étoiles. Sachant que déjà, une étoile, c'est déjà très très bien.
Est-ce que c'est valorisant pour une commune ?
Absolument. Oui. Parce qu'on essaye de faire des choses en faveur de l'environnement, mais enfin, je l'ai bien vu. Moi, je suis complètement convaincu qu'il faut faire des choses pour l'environnement, tout ça. Mais d'abord, dans un conseil municipal, tout le monde n'est pas convaincu. Y a des gens qui se disent, bon, voilà, c'est pas plus important qu'autre chose. Et le fait d'avoir un label, ça valorise l'action de la commune, ça valorise l'action de l'équipe municipale, et c'est quelque chose de gratifiant. Donc, en fait, ça prend la forme d'un panneau qu'on met devant le panneau de la commune, qui ressemble un peu à, vous savez, c'est les communes fleuries, là. On a trois fleurs, et là, c'est pareil, on a une étoile, deux étoiles, trois étoiles.
Très bien. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale et donc on se retrouve tout de suite après.
Tous les jours on retourne la scène, geste fauve au milieu de l'arène. On ne relance pas, on essaye de regarder droit dans le soleil. Et ton cœur au labour des lumières, quand l'amour revient à la poussière, on ne se console pas, on s'enraye, mais on regarde droit dans le soleil. À la croisée des hommes sans sommeil, l'enfer est myope autant que le ciel. On t'avait dit que tout se paye, regarde bien droit dans le soleil. Tourne, tourne la terre. Tout se dissout dans la lumière. L'acier et les ombres qui marchent à tes côtés. Dans le parfum des nuits sans pareil et l'éclat des corps qui s'émerveillent, ses lèvres avaient un goût de miel. On regardait droit dans le soleil. Se dispersent dans l'air et les mots qui retombent à l'envers. On ne sait plus comment ça s'épelle. Regarde droit dans le soleil. Tourne, tourne la terre. Tout se dissout dans la lumière. L'acier et les ombres qui marchent à tes côtés. Le chant des sirènes, sentinelle au milieu de la plaine, le tranchant de l'œil en éveil pour regarder droit dans le soleil.
Vous écoutez Principe Actif, un air de vie. Aujourd'hui, on parle d'éclairage et de luminosité. On vient de parler des communes qui s'engageaient justement dans une réduction de leur éclairage public. Il me semble qu'il y a aussi une charte, Christophe.
Ah, tout à fait. En fait, il y a une charte de protection de l'environnement nocturne qui, en fait, est une charte qui résume un peu toutes les actions qu'on peut faire pour aller dans le bon sens. Il y a énormément de communes signataires dans le département de l'Eure. Il y a un projet de signature collective au niveau de l'agglo d'Évreux, hein, qui, j'espère, verra un jour au printemps. En fait, c'est une charte qui est accompagnée d'un cahier des charges techniques et en fait qui permet aux élus d'y voir un petit peu plus clair dans ce monde un peu compliqué de l'éclairage public. Et ça permet aux élus d'avoir un vrai support et de discuter en connaissance de cause lorsqu'ils sont face à ces fameuses sirènes qui viennent nous vendre du matériel et de l'énergie.
Bien. Fred ?
Non.
Bon, bah écoutez. Donc une démarche globale sur tout un territoire, effectivement, ça doit créer une certaine, un certain dynamisme. Donc, enfin, c'est en bonne voie.
Alors dans le département de l'Eure, oui, là, j'avoue que voilà, on arrive à quelque chose d'assez constructif. Aujourd'hui, voilà, il y a 5 ans, il fallait faire un peu de porte à porte et puis sensibiliser comme ça. Aujourd'hui, il faudrait presque être 2 ou 3 pour gérer. Il y a un vrai partenariat dans le département.
C'est ta faute, Christophe. Hein.
Ouais, ça doit être ça. Ouais. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai partenariat avec les différentes agglos, que ça soit l'agglo d'Évreux, la CAS, la CAP, voilà, mais également avec le Conseil général. J'ai toujours souhaité, le président Destang aussi, qu'il y ait un partenariat à ce niveau-là. Donc les remises de labels, par exemple, dans nos départements, se font au siège du Conseil général. L'idée, c'était de sensibiliser le plus d'élus possible et de bénéficier de l'outil de communication. Puissant qu'est le Conseil général pour sensibiliser. Voilà.
Et je crois que c'est grâce à ça que l'Eure est un des départements leader
ouais, dans le domaine. Ouais.
Tout à fait. On est souvent là bien au fait de donner nos classements. On est à la fin. Pour une fois, c'est un classement. On est au début avec notamment une commune de l'Eure qui est tout en haut du classement. Non
ouais, il y a quelques communes en fait, mais il y a eu des communes qui ont un peu suivi les choses depuis le départ. Ma commune, par exemple, on a cette chance-là, mais avec un éclairagiste dans l'équipe municipale, c'est relativement simple, qui plus est quand c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'environnement. Mais du coup, ça a été moteur de plein de choses, puisque la difficulté, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle démarche, et le fait que des communes et des élus s'engagent dans cette démarche-là, en connaissance de cause, ça a permis à d'autres, en fait, de passer le pas. Et puis, petit à petit, le bouche à oreille a fait que chacun s'est un petit peu interrogé sur ce que faisait son voisin et puis s'est aperçu que, bah, finalement, il y avait moyen de faire des choses. Voilà.
Mais alors, dites-moi, dans vos communes, les éclairages de Noël, comment sont-ils ?
Ah, ça,
parce que, actuellement, on peut dire que cette période-là, elle est...
Malheureusement, on organise un concours de...
Alors ça, c'est vraiment pas bien, ça.
Bah non. Ça faudrait qu'on progresse.
C'est les gens à la consommation.
Il y a déjà une étoile qui est en train de s'effacer, là.
Voilà.
Et la ville d'Évreux, qui a fait un petit... qui a fait 3 pas en arrière, il me semble.
Voilà, bon, la ville d'Évreux, effectivement, il y a eu une expérimentation hein, qui a vraiment le mérite d'exister, qui a été faite pendant quelques mois. On était allé de 2h à 4h du matin, pratiquement sur l'ensemble de la commune. Ça a permis un petit peu d'étudier les retours. De ce que j'en sais, c'est plutôt positif. Là, pour l'instant, l'expérimentation a été suspendue, peut-être pour des raisons liées aux prochaines élections qui arrivent très vite et à toutes les polémiques qui peuvent exister autour du sujet un peu sensible. Mais voilà, gage, je pense vraiment que cette expérimentation sera prolongée et peut-être même améliorée. Il y a des travaux qui sont faits, malheureusement pour moi pas forcément dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup d'argent investi et je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Mais bon, ça a déjà le mérite d'être fait. Voilà, on aurait pu faire plus efficace.
Mais plutôt que de rallumer tout, est-ce qu'on pourrait au moins laisser une partie... éteinte, notamment il me semble que bon nombre de monuments à Paris ne sont pas éclairés la nuit. Est-ce que notre vieille cathédrale qui a fait peau neuve
Le législateur heureusement a un peu tranché sur la question puisqu'il y a maintenant des lois qui ont été mises en place pour gérer tout ce qui était enseignes lumineuses, monuments, bâtiments de bureaux. Voilà, donc au niveau du monument, il est un truc bien évident que je répète toujours et à loisir, c'est que la ville la plus visitée au monde, c'est Paris, que la plupart de ses monuments s'éteignent à 23h, la quasi-totalité à 1h du matin. Bon, alors effectivement, est-ce qu'il est nécessaire d'éclairer nos églises ou nos cathédrales, aussi belles soient-elles en permanence, je suis pas sûr. Hein. Mais bon, petit à petit, ça, les mentalités vont changer, ça va
se... Tu veux dire que Notre-Dame est éteinte la nuit ? Notre-Dame de Paris ? Alors voilà. Qu'Évreux est allumé.
Mmh. Ouais, mais
dingue.
Évreux se coupera, les installations vont être faites. Il y a beaucoup de travaux. Gageons que nos élus mettront un point d'honneur à gérer cette histoire-là et avoir une cathédrale à la fois bien mise en valeur quand c'est le moment
Un autre point positif sur ce cas des lumières pour les astronomes en herbe. Tu peux peut-être en parler, Philippe.
Moi, je suis plutôt spécialiste des oiseaux et de la nature, mais c'est vrai que j'aime bien voir le ciel. J'aime bien. C'est beaucoup plus agréable. On ne peut pas regarder les étoiles si on n'est pas loin d'un endroit éclairé.
Mais oui, Christophe faut s'écarter même à plus de 10 km, même 15 km d'Évreux, si on veut.
Mais en fait,
tu fais de l'astronomie, Christophe, toi.
Alors, j'ai pratiqué à une époque, malheureusement plus le temps, mais effectivement, le côté culturel. de la nuit est plutôt intéressant. Quand on regardait des toiles de maître d'il y a une centaine d'années ou plus, on s'aperçoit que toutes les scènes de nuit, on ne voit que les étoiles en fait, et le ciel, et tous les phénomènes célestes, comme vous parliez tout à l'heure de comètes, avaient une grande importance pour la population, généraient même des croyances.
Les décorations de Noël.
Parce qu'en fait, on ne voyait que ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu le regard vers le ciel et puis vers la nature, parce que justement, elle est complètement effacée par l'éclairage dans nos villes.
Alors, j'ai une idée pour les concours d'éclairage de Noël. Ce qu'il faudrait, c'est faire des concours, non pas d'éclairage, mais faire des concours de décoration de Noël qui n'est pas d'éclairage.
Voilà, on a mis ça en place dans ma commune. Par exemple, dans ma commune, en fait, les éclairages... les décorations de Noël sont en grande partie composées de choses qui ne sont surtout pas lumineuses. Voilà. Et il y a moyen de faire des choses très jolies sans.
Même avec des bougies, on peut pas.
Voilà, non, mais il y a moyen de faire des choses très jolies et qui sont.
Mais les enfants, ils vont être déçus, les manèges, avec cette lumière, là, et les musiques.
Il faut pas perdre ce côté festif. Après, c'est comme tout. Il faut rester dans le. Il faut être intelligent et faire les choses de façon juste. C'est-à-dire que mettre un peu un peu de joie dans nos communes, un peu de décoration, des choses lumineuses comme on voit là sur Évreux. Vous voyez des choses très jolies là. Bon, le tout, est-ce qu'il est nécessaire par contre de les laisser allumer jusqu'à minuit, 1h du matin? C'est pas sûr.
Voilà. Juste sur les éclairages de Noël à Évreux, ça coûte 237 000 euros pour la commune.
Par an.
Moi j'ai rien contre sur l'idée, mais c'est vrai qu'à un moment on peut se poser des questions quand même sur. On peut même se poser des questions sur l'origine. Où est-ce que c'est fabriqué, comment c'est fait, moi je pense que aussi par rapport à cette problématique d'économiser de l'argent à la fois pour les collectivités, on n'en a pas parlé mais on peut en parler, c'est sur la précarité énergétique. On va avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir du mal à payer leurs factures d'énergie, et à mon avis ça serait bien qu'un jour les collectivités pensent à faire des économies, que ces économies ils s'en servent pour aller isoler des bâtiments sociaux, des choses comme ça.
Seulement les collectivités, parce que donc on parlait tout à l'heure d'une nouvelle réglementation aussi, donc qui est entrée en vigueur en 2012. Je donne quelques points de cette nouvelle réglementation, notamment les publicités lumineuses doivent être éteintes entre 1h et 6h du matin. Alors ça, c'est dans les grosses unités urbaines, comme on les appelle dans le jargon. Il y a de plus en plus de restrictions sur l'installation de nouvelles enseignes lumineuses. Les bureaux doivent être éteints, etc. On va peut-être se programmer une randonnée nocturne pour aller vérifier dans le centre-ville d'Évreux, ce serait sympa. Puis on refera un reportage.
Ils ont jusqu'à 2018
Ils ont du temps, ils ont toujours beaucoup de temps.
L'émission touche à sa fin. Moi, je vais remercier sincèrement donc Christophe et Philippe pour leur participation et leur éclairage.
Merci de votre venue.
N'oubliez pas demain Un privé à Babylone, l'excellente émission de Gonzalo qui sera talonnée par les Vandales.
Non, je crois que les Vandales sont partis en vacances.
Ah ouais ? Oh là là. Et nous, on se retrouve à Air de Vie le 17, mais une rediffusion le 3. Donc nous, on se retrouve le 17 avec une nouvelle émission. Bonne soirée. À
ciao
bientôt.
À tous.
Au revoir.
Au revoir.
Ciao, ciao.
C'était un air de vie, une émission proposée par le trio JFK sur Principe Actif. Un air de vie.